France Culture, 8h20, et on s'arrête ce matin sur un roman dans l'émission, Le Parfum d'Adam, que signe Jean-Christophe Ruffin chez Flammarion. La fiche de lecture, on peut pas trop en dire, puisque c'est un roman d'espionnage avec une intrigue serrée qui se déroule sur plusieurs continents, de Wrocław en Pologne à Rio, en passant par Atlanta et Providence aux États-Unis, Londres ou encore le Cap-Vert. Enquête haletante donc qui se déroule dans le monde mystérieux de l'écologie radicale. Et on est loin, très loin du pacte de Nicolas Hulot, de l'image des formes que peut prendre la protection de la nature sur la scène médiatique et politique en France notamment. Les militants qu'on croise dans Le Parfum d'Adam se fichent éperdument des pistes cyclables ou du recyclage des déchets. Ils sont passés à la lutte armée et ils pratiquent les formes les plus violentes de terrorisme. Leur idéologie, elle se fonde sur une critique radicale de la présence humaine sur Terre et l'idée que tous les moyens sont bons pour lutter contre la surpopulation de la planète, même l'utilisation de souches de choléra comme arme de destruction massive. Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour.
Et bienvenue, ancien prix Goncourt. C'était il n'y a pas si longtemps, en 2001, vous êtes le président d'honneur de l'ONG Action contre la faim. Et on retrouve dans ce roman des thèmes que vous connaissez intimement, l'humanitaire évidemment, la pauvreté, le regard qu'on porte sur elle, le tiers-monde, les rapports Nord-Sud. Mais pourquoi l'écologie radicale ?
Je voulais au départ écrire un livre depuis longtemps sur les baleines. C'est un peu parce que c'est pour que j'aime particulièrement les baleines, mais je trouvais très intéressant de suivre l'histoire de Greenpeace et l'histoire de son action en faveur des baleines, parce que justement il y a eu un moment dans cette action où on a basculé et où certains militants ont fait sécession pour devenir des partisans d'une action violente. Paul Watson, pour ne pas le nommer, l'un d'entre eux,
canadien,
a acheté un bateau. Elle a lesté avec du ciment et a dit les baleiniers, il ne suffit pas de mettre des banderoles devant, on va les couler. Et c'est ce qu'il a fait. Et alors on passe, et en France on ne connaît pas ça du tout, parce que comme vous l'avez dit, on a une écologie, nous, très 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 bien élevée. Hein, très, bon, je veux dire, ici, les écologistes rêvent surtout d'être ministres, hein, enfin les dirigeants, bon, je pense qu'il faut s'en réjouir, enfin c'est comme ça. Et l'écologie américaine, anglaise, etc., n'a rien à voir avec tout ça. Et c'était un peu l'occasion de montrer ce que c'est ailleurs, ce qu'est vraiment le débat écologique à un niveau mondial.
Et qu'est-ce qu'il donne ce débat écologique lorsqu'il rejoint ce que les anglo-saxons appellent la deep écologie ?
Voilà, alors c'est un courant philosophique qui est encore une fois très ignoré chez nous. Luc Ferry, il y a quelques années, avait écrit un livre tout à fait éclairant là-dessus.
Nouvel ordre écologique.
Absolument, hein. Dans lequel il montrait que, bon, il y a une écologie en effet tout à fait réformiste, mais il y a aussi une écologie très radicale, qui est qu'on pourrait appeler anti-humaniste, c'est-à-dire qui analyse les phénomènes naturels, les phénomènes de la planète, comme des phénomènes qui sont essentiellement liés à la présence d'une espèce nuisible, d'une certaine manière, qui est l'homme. Et pour les partisans, cette deep écologie, des philosophes comme Arnonès, par exemple, l'ennemi désigné, vraiment, clairement, c'est l'espèce humaine, si vous voulez. Alors, ces philosophes-là sont des gens très tranquilles, qui vivent dans des endroits calmes, qui sont des vieux messieurs extrêmement gentil, mais derrière il y a des militants qui reprennent ces idées. Et ça, c'est pas une invention de ma part, ça existe. Ça existe pas en France ou très peu, mais ça existe ailleurs, et qui les reprennent sous une forme très offensive.
Le fond idéologique, c'est que l'espèce humaine n'est qu'une espèce parmi d'autres. Elle n'est pas au sommet de l'échelle des vivants.
C'est ça. Dans cette idée, dans le cœur de la deep écologie, c'est ça, c'est de considérer qu'au fond, l'espèce humaine normalement devrait être une espèce comme les autres, sauf que elle a une particularité, c'est qu'elle n'a pas ou elle n'a plus de prédateurs. C'est-à-dire plus personne ne limite son expansion. Et que pendant très longtemps, les sociétés traditionnelles ont connu une forme d'équilibre avec la nature, un équilibre qui est d'ailleurs, au fond, qu'on retrouve dans cette idée du paradis perdu. Et c'est pour ça le titre du livre, Le Parfum d'Adam, provient d'une citation d'un auteur grec qui prétendait, un père de l'Église, si vous voulez, chrétien, qui prétendait que Adam, au paradis, dégageait un parfum qui attirait à lui les bêtes sauvages, parce que finalement, il était en harmonie avec la nature. Et la recherche de ce paradis perdu est tout à fait caractéristique de cette idéologie de la deep écologie.
Assez étonnant de voir la documentation que vous avez mobilisée pour ce roman. C'est combien d'années de travail ? D'intérêt autour de la question ?
Ça fait très longtemps que je réfléchis à ce livre. Ça fait plus de 10 ans que je rassemble comme ça des éléments de documentation sur cette deep écologie. Et j'ai toujours été frappé pendant toute cette période par justement l'absence d'écho de ces idées en France. C'est-à-dire
pourquoi ça prend pas d'ailleurs, Jean-Christophe Ruffin ?
Il me semble que les Français ont un rapport avec la nature qui est très particulier. je pense que notre modèle, c'est le jardin à la française, au fond. C'est-à-dire qu'on a un rapport très, très ordonné à la nature. On aime bien se promener dans un endroit où il y a des allées, où le buis est taillé, et où on peut éventuellement lutiner dans les forêts. Tandis que pour les... chaque pays a un peu son écologie, si vous voulez. Pour les Allemands, les Verts allemands sont très mobilisés sur les questions de désarmement. Pendant la guerre froide, ils étaient évidemment aux premières loges avec ces questions de fusées, de désarmement, etc. Donc très politique. En Angleterre, c'est les bêtes, c'est la chasse à cour essentiellement au départ. Hein, c'est la lutte contre la chasse à cour qui ensuite dérive vers le Front de libération des animaux, qui est une organisation terrible, extrêmement violente, hein, qui est considérée par les services secrets anglais comme une des plus dangereuses là-bas, hein, juste derrière le terrorisme islamiste. Et puis aux États-Unis, c'est encore autre chose, c'est les grands espaces. C'est les grands espaces, sont les grands déserts, etc., avec une littérature qui est encore une fois ignorée ici. Rachel Carson, par exemple, qui avait écrit Silent Spring après l'utilisation les premières utilisations des insecticides, etc., avec des gens comme Aldo Leopold, etc., qui font l'apologie de ces grands espaces naturels. Et c'est une tradition américaine très ancienne, depuis Thoreau, depuis John Muir, que l'exaltation de ces grands espaces sans hommes, finalement, qui n'ont pas été touchés par l'espèce humaine. Et nous, ben, à côté de ça, on a une vision un peu 18e-iste d'une nature apprivoisée, je dirais.
Jean-Christophe Ruffin, on trouve cette phrase dans la postface. Les événements qui constituent la trame de ce roman, s'ils ne sont pas véridiques, ne me paraissent pas non plus, hélas, invraisemblables. Alors, il y a évidemment ce qui ressort de la fiction et ce qui ressort de la réalité. Cette deep écologie, cet écoterrorisme, cette écologie qui est prête à passer à la lutte armée pour défendre ses idées fanatiques, extrémistes, elle existe véritablement. C'est-à-dire que c'est pas uniquement une vue de l'esprit
Non, c'est pas du tout une vue d'esprit. Disons, je pense que les pièces du puzzle telles qu'ils sont présentées dans le roman, c'est-à-dire les différents courants, le courant de la deep écologie, le courant aussi de la nostalgie indienne, qui est très important. Beaucoup de ces militants font référence aux Indiens d'Amérique, j'entends. Et par exemple, Paul Watson avait fait un séjour très tôt chez les Indiens, avait reçu un nom de guerre, avait été baptisé de cette manière et adoubé par les Indiens. Le courant néo-conservateur américain aussi, qui est d'une certaine manière, on pourrait penser que ça n'a rien à voir, et pourtant, ça peut se rejoindre dans certaines approches du tiers-monde, dans l'évaluation de certaines menaces, hein, sur la surpopulation, etc. Tous ces éléments, toutes ces pièces du puzzle existent. La seule chose qui est proprement romanesque, qui est la fiction, c'est de les avoir mis en phase pour en fabriquer, j'allais dire, un complot articulé, qui prend la dimension qui est décrite dans le livre, mais je pense que, si vous voulez, le feu est prêt, peut-être que l'étincelle manque, mais en tout cas les fagots, le petit bois et le journal sont là, si vous voulez, et qu'il suffit d'une allumette pour les mettre en phase. Voilà. Alors l'allumette, c'est la fiction pour l'instant.
Pour l'instant. C'est une menace aussi qui est prise au sérieux, vous le disiez, par les services de renseignement, même les plus prestigieux, même la CIA ou...
Oui, et d'ailleurs ça se traduit même par la législation aux États-Unis maintenant. Le crime d'éco-terrorisme a été, j'allais dire, inscrit dans la législation américaine. Les premières inculpations ont eu lieu récemment. Et ils prennent très au sérieux ces menaces parce que un certain nombre de groupes, comme le Earth Liberation Front, par exemple, sont des groupes très actifs. Alors, il y a eu plusieurs générations, il faut le prendre en détail, mais il y a eu plusieurs générations. Il y a eu la génération des années 80 qui aujourd'hui est un peu avec des organisations comme Earth First, par exemple, ou comme certains dissidents de Greenpeace, qui encore une fois étaient très minoritaires, mais très activistes, hein, des gens qui s'enchaînaient dans les arbres pour pas qu'on les coupe, qui se planquaient dans le lit des rivières pour pas qu'on construise de barrages, etc. Ça, c'est un peu
C'est pas particulièrement violent comme forme d'action.
Sauf qu'avec les bûcherons, notamment, ils se sont sérieusement castagnés, hein, je veux dire, ça allait très loin, ça pouvait, bon. Maintenant, on est passé effectivement à des choses plus, sans doute sous l'influence du FLA anglais, du Front de libération des animaux anglais, qui est une organisation secrète extrêmement violente, encore une fois, et qui prône l'action violente. Et sur ces sites internet où vous pouvez aller, enfin, je sais pas que je vous le recommande, mais enfin, en tout cas, c'est intéressant, vous trouvez des recettes, comment saboter quelque chose, comment effacer vos traces, comment échapper à la justice, etc. Bon, avec des recettes terroristes, véritablement, hein. Et les méthodes de cette organisation ont été adoptées par certains groupes américains qui commencent à pratiquer le même genre d'action.
Et comment se croisent dans ces logiques folles, dans ces logiques fanatiques, la question de l'écologie et celle de la pauvreté ? qui intervient aussi dans le roman.
Oui, alors ça, c'est ce qui m'intéressait fondamentalement, parce que au fond, de tous les autres, je suis pas un spécialiste de l'écologie, mais en revanche, ce qui m'intéresse depuis longtemps, et ce que j'ai toujours abordé dans les autres livres, c'est la façon dont on envisage la pauvreté, l'ailleurs, le tiers-monde, les pays pauvres, etc. Et je pense que aujourd'hui, enfin, en tant que peu militant de l'action humanitaire, moi je suis frappé par la renaissance des idées malthusiennes. Alors je parle pas de Pascal Sevran qui tenait des propos
scandaleux sur le sexe des Noirs à l'origine de tous les maux et notamment de la problème de développement.
Voilà, et surtout qui a mis en lumière, en tout cas qui a revendiqué l'idée qu'on était trop nombreux, que la surpopulation était quelque chose de terrible. Ce sur quoi d'ailleurs on peut être d'accord, mais simplement les recettes sont quand même assez scandaleuses. Et quand vous travaillez dans l'humanitaire, vous entendez souvent ça. Vous entendez, mais qu'est-ce que vous allez sauver des gens qui meurent de la famine? Après tout, les famines, les guerres, etc. sont des éléments régulateurs. Ils sont trop nombreux, donc c'est normal qu'ils se battent, c'est normal qu'ils meurent de faim, et c'est même bien, d'une certaine manière, puisque ça limite la croissance. Alors, cette renaissance de la pensée malthusienne, si vous voulez, elle est pas isolée, c'est-à-dire qu'elle va aussi, elle peut confluer un jour avec ses approches écologiques, c'est-à-dire que de même qu'on peut dire ces populations sont trop nombreuses, j'allais dire pour des raisons humanitaires entre guillemets, on peut le dire aussi pour des raisons écologiques, c'est-à-dire on peut dire ils sont trop nombreux donc ils détruisent la planète. Et à chaque conférence internationale sur l'environnement, vous avez deux blocs, vous avez les pays développés et les pays pauvres. Les pays pauvres disant aux pays développés c'est vous qui polluez, etc. Et les pays développés disent non, mais on ne signe pas Kyoto parce que commencez déjà par réduire votre population, commencez par ne plus brûler du bois, etc. Vous savez que les vaches sont accusées d'augmenter le méthane parce que les vaches pètent. Je suis désolé de dire à cette heure du petit déjeuner, mais enfin c'est très sérieux.
Les vaches, ça va.
C'est les sons des vaches et qui augmentent donc les émissions, si je puis dire, des vaches. Mais c'est très sérieux. C'est un sujet qui est abordé à chaque conférence internationale. L'augmentation du méthane dans l'atmosphère est liée à ces vaches, notamment du tiers-monde, si vous voulez, qui sont, comme on le sait, mal élevées et qui, donc, se conduisent avec un certain manque de retenue. Bref, cette opposition riche-pauvre, si vous voulez, autour du thème de la surpopulation, il est très très actuel.
Et c'est très curieux d'ailleurs de voir la question du développement qui n'est plus présentée, vécue, analysée comme un espoir, mais qui devient un risque. Le développement du tiers-monde, ça devient une menace, notamment pour la protection de l'environnement, notamment pour celle de la survie de la planète.
Je crois qu'on est passé d'une période où le développement, la pauvreté était considérée comme une sorte de scandale auquel on devait répondre par la justice. C'est les années 70, 80, etc. L'idée, c'était, ces pays sont pauvres, il faut partager avec eux, il faut les faire monter, j'allais dire, dans le train du développement. Ça, c'était l'idéologie du développement. Aujourd'hui, on est beaucoup plus devant une idéologie sécuritaire par rapport au tiers-monde, en disant ces pays sont dangereux. Ils sont dangereux de deux manières, d'ailleurs. Ils sont dangereux s'ils restent pauvres, parce que s'ils restent pauvres, à ce moment-là, ils produisent du terrorisme, ils produisent de l'immigration sauvage, etc. Mais ils sont dangereux aussi s'ils deviennent riches, parce que la Chine, l'Inde, le Brésil, etc., qui entrent finalement dans le système industriel, dans le système de production, ils deviennent dangereux parce qu'ils nous concurrencent, parce qu'ils déstabilisent l'économie mondiale. Et finalement, ces gens qui veulent monter dans la barque, ils vont la faire chavirer. Donc finalement, le tiers-monde aujourd'hui est devenu un élément de danger, et on a une approche par rapport à lui qui est une approche beaucoup plus sécuritaire. C'est pour ça que je dis qu'on est passé de la lutte contre la pauvreté à la guerre contre les pauvres.
Oui. C'est l'une des phrases qu'on trouve dans la postface du Parfum d'Adam, Jean-Christophe Ruffin. On continue à en parler dans un instant. Il est 8h05.